Mémoire vive,
présentée par Stéphane Bou
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Jérusalem, juillet 1987, à la veille de la célébration du 40e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Léon Askenazi et André Chouraki, deux géants du judaïsme français, tous les deux originaires d'Algérie, entament un long dialogue. C'est André Chouraki qui prend le premier la parole et dessine l'objectif d'une telle rencontre. Aujourd'hui, dit-il, face à ce paysage qui est celui de notre Jérusalem historique, nous nous rencontrons pour faire le bilan. La renaissance d'Israël est si dense qu'il nous faudra des heures et des heures pour pouvoir analyser son état actuel à l'issue de la quatrième décennie de sa résurrection. À travers ce bilan, nous éclairerons ensemble, de nos points de vue différents mais cependant convergents, les perspectives prévisibles de l'avenir. Alors comment recevoir aujourd'hui ce bilan fait il y a 30 ans? Les perspectives telles que les deux hommes les ont à l'époque dessinées étaient-elles et restent-elles prévisibles justement? Qu'en est-il de cet avenir sur lequel Léon Askenazi et André Chouraki s'interrogent longuement? Au cours de leur conversation, ils évoqueront notamment le poids de la Shoah sur la nature de l'État né 3 ans après la fin de la guerre, les rapports entre Israël et la diaspora, les relations entre les laïcs et les orthodoxes et toute autre sorte de thèmes. Leur point de vue ne cesse en effet de différer et de converger. Grâce à Denis Charbit, grand spécialiste de l'histoire du sionisme, avec nous aujourd'hui, le texte de cette rencontre de haut vol, resté inédit, est aujourd'hui disponible chez Albert Michel. Alors bonjour Denis Charbit.
Bonjour.
Alors avant d'ouvrir ensemble ce livre intitulé « À l'heure d'Israël » que vous avez annoté et auquel vous avez donné une longue, très longue et précieuse introduction, est-ce que vous pouvez nous rappeler ou nous apprendre tout simplement d'abord qui étaient Léon Askenazi et André Chouraki, que vous désignez dans votre introduction comme des sages, hein? Comment jauger leur importance, comment jauger ce qu'ils ont représenté et ce qu'ils représentent encore?
Alors, je commence par dire effectivement que, et je m'en suis rendu compte en rédigeant ce texte introductif, que puisqu'ils sont tous les deux nés en Algérie, ils font partie de ce judaïsme algérien, eh bien ce sont effectivement les deux premières personnalités du judaïsme algérien dont le nom est passé à la postérité. Avant eux, ce sont peut-être des grands rabbins, de grands sages, etc., mais dont le nom n'est pas resté et est resté méconnu, là où les deux premiers, ils naissent dans la fin des années 10, début des années 20, eh bien après il y en aura beaucoup d'autres, hein, Derrida, beaucoup d'historiens, de penseurs.
Ça m'a surpris que vous citiez Derrida très tôt, parce que Derrida n'est pas un sage du judaïsme.
Bien sûr, mais
grande.
Non, c'était pour parler des grandes gloires du judaïsme algérien, en tout cas de la qu'a produit ce judaïsme d'Algérie, et dont les deux premiers sont effectivement Léon Askenazi et André Chouraki. Ce qui est très important, ou ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont à la fois quelque chose en commun qui est énorme, c'est qu'ils sont tous les deux croyants, alors pratiquant Léon Askenazi un peu à sa manière assez singulière, mais néanmoins dans un rapport très, très, très fort à la transcendance. Ils sont tous les deux nés en Algérie et dans la même région de l'Oranie, et puis ils sont tous les deux sionistes et ils arrivent tous les deux en Israël et vont vivre la deuxième partie de leur existence en Israël.
Après être passé par la France longuement.
Après, bien sûr, puisque André Chouraki monte en Israël, comme on dit, en 1958 et Léon Askenazi 10 ans plus tard, en 1968. Et donc le dernier tiers, en quelque sorte, de leur vie, ils le passent là-bas. Et en même temps, leurs itinéraires ne sont pas identiques. Alors les deux étaient des hommes des hommes de parole et des hommes de la parole, mais je dirais qu'André Chouraki est d'abord un homme de livres, il a une œuvre immense de près de 70 volumes, 70 livres, et qui est un peu un touche-à-tout, puisqu'il a à la fois travaillé sur le sionisme, sur l'État d'Israël, sur le judaïsme, il a fait des traductions, notamment la traduction de la Bible, du Nouveau Testament et du Coran, là où Léon Askenazi s'est surtout préoccupé de rejudaïser la communauté juive après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, avec l'école d'Orsay dans un premier temps, hein, et puis ensuite, à partir des années 70 et 80, avec des institutions, le Centre Rashi, puisque nous y sommes, également Mayanot en Israël, et j'ai cherché comme ça une métaphore qui permette de comprendre à la fois en quoi ils sont différents et en quoi ils sont complémentaires, et j'ai eu cette image-là d'un ministre de l'Intérieur, oui. aurait été Léon Ashkenazi, puisqu'il a rejudaïsé la communauté, là où la contribution essentielle d'André Chouraqui a été de bâtir des ponts avec le monde extérieur, et j'ai appelé ça le ministre des Relations extérieures.
Il a d'ailleurs eu des responsabilités institutionnelles.
Tout à fait. Alors, à l'Alliance israélite universelle, à la mairie de Jérusalem, il a été le conseiller de Ben Gurion, et je dirais que son œuvre, elle a franchi de très loin les bornes de la communauté, et c'est comme ça qu'il a pu nouer, notamment autour du dialogue judéo-chrétien, avec des plus hautes personnalités pontificales, dont le pape, surtout Jean XXIII, et d'autres à la suite. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, l'un se situe sur les frontières de la communauté, même s'il n'était pas du tout coupé de la communauté, c'est André Chouraqui, et l'autre, même si Léon Ashkenazi a eu aussi des rapports avec des personnalités non-juives, c'est vrai que l'essentiel de son travail oral a été de redonner une volonté, j'appelle ça dans l'essai un judaïsme assertif, c'est-à-dire un judaïsme qui n'attend pas des autres qui le pensent à sa place, mais qui viennent dire voilà ce que nous pensons, ce que nous, comme judaïsme, nous pensons, et ceci dans un contexte qui pourrait être capital, c'est la renaissance, la résurrection de l'État d'Israël.
Alors, c'est précisément le sujet de ce dialogue de 1987. Alors, comment vous avez pris connaissance du texte de ce dialogue, de l'existence de ce dialogue? Donc, on rappelle, il est resté inédit jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de cette rencontre-là, mais précisément ces quelques jours de 1987, comment vous les avez connus? D'ailleurs, j'ai aussi envie de vous demander, est-ce que vous les avez connus personnellement, physiquement?
Bien sûr. J'ai connu et Léon Ashkenazi et André Chouraqui. André Chouraqui, surtout autour de colloques qui avaient été organisés autour de son œuvre et de son action. Et Léon Ashkenazi, parce que j'étais à un certain moment directeur d'une petite publication et que je l'avais interviewé à plusieurs reprises. Et je dois dire que très souvent en France, j'étais à un moment en France pour ma thèse, et très souvent, il m'invitait à faire des débats autour d'Israël, et alors qu'il était le Manitou et que j'étais un tout jeune étudiant, voilà. Donc en ce sens, il avait comme ça une ouverture qui m'a beaucoup touché. Donc je les ai connus, même si je le dis d'entrée de jeu, nous sommes tous les trois nés en Algérie, nous sommes tous les trois sionistes, je vis également en Israël comme ils y ont vécu, mais c'est vrai que je suis d'un autre bord, je ne suis pas, même si les questions spirituelles m'habitent, mais je ne me définis pas comme croyant et pratiquant et de stricte observance. Si déjà j'appartiens à une communauté, c'est plutôt la communauté conservative, et d'une part, et d'autre part, c'est vrai que sur le plan politique, même si André Chouraqui était plutôt inclassable, Léon Ashkenazi a assumé, je dirais, son rôle de mentor, je dirais, à la tête en tout cas, dans le courant qu'on appelle le sionisme religieux politique, qui est incarné par le Parti National Religieux, aujourd'hui le parti qui s'appelle la Baïta Yehoudi, moi, là où effectivement je n'étais pas de ce bord-là. Ouais, donc j'ai beaucoup de déférence envers eux, et en même temps, je souligne...
On reviendra sur la nature de votre lecture, entre guillemets, critique, hein, c'est-à-dire à la fois loyale, fidèle, empathique, mais effectivement, vous discutez, vous, 30 ans après, avec eux, et c'est absolument ce qu'il y a de passionnant dans votre introduction. Mais avant cela, je voudrais qu'on revienne sur ce qu'était le cœur du projet, de l'objectif de The Dialogue à l'époque, j'ai toujours pas compris finalement pourquoi il était aussi resté longtemps inédit. C'est-à-dire que au cœur du désir donc de ces deux hommes de dialoguer, il y a ce que vous formulez comme la nécessité d'une clarification. La création d'Israël a introduit à l'échelle locale, régionale et internationale, mais aussi à l'échelle du monde, écrivez-vous, à l'échelle du monde des Juifs, écrivez-vous, des changements quantitatifs et qualitatifs qu'il revient aux historiens de dégager et d'apprécier. Pour leur part, nos deux sages se préoccupent d'en dégager le sens et la vocation. D'ailleurs, là, on voit tout de suite l'opposition entre l'ambition de sage de dégager un sens, une vocation, et celui d'une recherche historique, scientifique, qui est d'une autre nature. Je voudrais qu'on revienne sur ce moment 87. Pourquoi ils se parlent à ce moment-là, et quel est pour eux le sentiment, effectivement, de nécessité, comme vous dites, d'urgence d'entamer ce besoin de clarifier la situation?
Alors, deux choses. La première, je rappellerai, puisqu'on m'avait posé la question, c'est Annette Chouraqui qui m'a contacté il y a un an pour me demander. Alors, initialement, c'était de présenter cet entretien-là dans un colloque qui a eu lieu à l'occasion du 100e anniversaire d'André Chouraqui. Et lorsque je l'ai lu, lorsque j'en ai pris connaissance, je me suis dit, on ne peut pas se contenter d'en parler dans un colloque qui reste inévitablement lié à la centaine de personnes qui s'y trouvent. Il faut le diffuser. C'est comme ça que j'ai contacté à Paris Albin Michel, qui l'a accepté d'emblée parce qu'on entrait dans le 70e anniversaire. Alors voilà pour la question. Pourquoi elle a attendu autant de temps? Eh bien, parce qu'elle me disait, je cherchais une personne qui, à la fois, pouvait avoir vis-à-vis d'eux donc cette empathie-là que vous avez notée, et en même temps un regard qui, voilà, une certaine distance, me disant avec beaucoup de lucidité que trop souvent, lorsqu'on écrit sur Léon Ashkenazi ou sur André Chouraqui, on est dans une sorte d'agiographie, dans une sorte de vie de saint. Alors c'est très bien pour assurer, je dirais, le prestige de deux grandes personnalités, mais si on veut faire vivre une pensée, ben, il faut lui poser des questions.
Il faut continuer de dialoguer.
Voilà, c'est ce dialoguer. Que vous faites. Et c'est pour ça qu'elle a, elle a accepté, je dirais, à la fois que je prenne ça en charge et la liberté du propos que j'ai tenu, mais encore une fois, dans une vraie reconnaissance très sincère et très authentique de l'importance qu'ils ont eue. Alors maintenant, pourquoi 87? Alors, l'initiative du dialogue, c'est André Chouraqui. C'est André Chouraqui, ils sont, alors on va dire, au soir de leur vie, mais en même temps...
Ils se connaissent bien.
Ils se connaissent bien, bien sûr. Ils ont cheminé toujours en parallèle. C'est-à-dire qu'on les a très rarement vus ensemble pour d'autres projets, pour des conférences, chacun ayant en quelque sorte, on va dire, ses plates-bandes réservées, mais ayant maintenu, puisqu'ils habitaient tous les deux à Jérusalem, depuis 1968, quand Ashkenazi a fait son alia, bah, ils ont eu de temps en temps des liens amicaux, ils se sont vus, ils se sont invités réciproquement. Voilà, si ce n'est que André Chouraqui, en 1987, alors, il est en train d'écrire ses mémoires, qui vont paraître deux années plus tard, et donc il est déjà dans le sentiment qu'il faut faire un bilan, il faut essayer de dire quelque chose. Et comme finalement ce compagnonnage-là entre Ashkenazi et Chouraqui n'était que de l'ordre du privé, très peu d'ordre public, eh bien, il estime que le temps est venu ben voilà, de mettre tout ça à plat. Et donc, il se rend compte, attention, pas une fois ou deux, hein, c'est un entretien qui fait transcrit, ça fait près de 200 pages. Ils se sont rencontrés au mois de juillet et au mois d'août 1987. Ils se voyaient le matin, ça durait à peu près toute une journée ou toute une matinée, après ils déjeunaient ensemble.
Ça veut dire qu'ils ont travaillé le texte après coup, la transcription?
Non, alors justement, non. Le texte, alors voilà, il est resté en l'état. Ensuite, André Chouraqui a été happé par la rédaction de son autobiographie et donc on ne disposait que des cassettes et ces cassettes n'ont été retranscrites que très tardivement, il y a peut-être 5 ou 6 ans environ, et pendant 5 ans, voilà, Annette Chouraqui était en quête de quelqu'un qui pourrait faire l'affaire, et voilà comment j'ai été, grâce aussi à Francine Kaufmann qui a suggéré mon nom, et comme j'avais connu André Chouraqui, comme j'avais travaillé un numéro d'une revue sur André Chouraqui, donc voilà, ils m'ont fait cette confiance, d'autant que ça a été ma première d'ailleurs objection, en disant mais est-ce que c'est un ouvrage de philosophie juive, de Kabbale, de Talmud et de Bible, en quel cas je ne suis pas sûr, je peux le lire, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le commenter. Elle m'a dit non, si je te le confie, c'est parce que c'est un examen, c'est un bilan de ce que, à l'heure d'Israël, ce que la création de l'État d'Israël a changé, doit changer et changera dans la condition juive, à l'intérieur d'Israël, à l'intérieur de la diaspora et également avec les grandes nations du monde. Donc le propos était, je dirais pas politique au sens partisan du terme, mais au sens métapolitique. Qu'est-ce que la création de l'État d'Israël modifie dans la condition juive?
Alors, l'ensemble des thèmes, c'est absolument impossible dans le cadre de cette émission de rentrer dans les détails, ne serait-ce que dans un des grands thèmes qui est abordé, mais je voudrais qu'on donne quelques indications à l'auditeur pour lui donner l'envie de se plonger dans ce livre. Le poids de la Shoah, alors où il s'agit pour eux de nier l'idée qu'il y aurait une causalité, hein, c'est très compliqué pour eux d'articuler à la fois la concomitance des deux événements, la création d'Israël, et le refus absolu de l'idée d'une causalité, et il y a de très beaux développements sur cette question, inquiet effectivement. Le dialogue judéo-chrétien, et là vous dites, vous avez cette formule qui est de dire que Chouraqui voit le verre à moitié plein, là où Ashkenazi le considère à moitié vide. On va peut-être s'arrêter un instant sur la question du dialogue judéo-islamique, qui effectivement, comme vous le dites, se déroule à l'époque dans un climat de sérénité qui serait en effet, pour reprendre vos mots, absolument impensable aujourd'hui. Et pour bien faire comprendre cela aux auditeurs, et là je vous demanderai vraiment de nous expliquer ce qui s'est passé tout simplement, je voudrais donner tout de suite deux citations, l'une d'Ashkenazi où il dit « L'antijudaïsme, pour ne pas dire l'antisémitisme, est un mot qui risque d'être impropre lorsque nous parlons des musulmans ». Ça, c'est Léon Ashkenazi dans ce dialogue. Et André Chouraqui lui rétorque presque en effet et il dit « L'enseignement du mépris n'existait pas en islam alors qu'il a ravagé la relation judéo-chrétienne pendant des siècles ». Ces phrases sont absolument comment dire,
inconcevable.
Inconcevable aujourd'hui dans un contexte où on sait les procès récents qu'il y a eu, les discussions. Donc je voudrais que vous mettiez, vous fassiez peut-être un travail de montage entre ce qui se dit à ce moment-là, il y a 30 ans, et ce qui se pense aujourd'hui dans la majorité des têtes juives, notamment en France, sur ces questions-là.
Alors, sans vouloir faire ce que l'on appelle de l'historicisme, je pense que ce qu'ils disent du dialogue judéo-musulman, d'ailleurs ils ne disent pas judéo-islamique, mais judéo-musulman, c'est comme ça qu'à l'époque on en parlait, montre à quel point nos propos, nos réflexions sont liés à un contexte politique. Et je le dis dans mon introduction, effectivement, on voit bien qu'on est dans un échange entre deux personnalités avant 2001. Alors attention,
on est avant le Hamas.
Voilà, avant le Hamas, puisque le Hamas naît en fin 87 et là on est en juillet août 87. Mais je dirais même plus, je crois que les deux sages ici reflète un consensus qui était relativement partagé, mais qui ne veut pas dire qu'ils ne voient pas ou ils ignorent à quel point la création de l'État d'Israël suscite, je dirais, une sorte de confrontation difficile dont on n'était pas encore sorti et dont on n'est pas encore sorti aujourd'hui entre le monde juif et le monde musulman. Donc là-dessus, ils n'ignorent pas que cela soit.
Il ne faut pas laisser penser que ces citations seraient, le résultat d'un regard
exactement.
De béni oui-oui, ravi.
Voilà, comme ils ont été marqués par la Shoah, je pense comme beaucoup de personnes de leur génération, ils considèrent que le rapport entre les juifs d'Europe et les non-juifs en Europe a pu atteindre des sommets de symbiose comme on n'en a jamais vu ailleurs dans le monde, mais en même temps, après la Shoah, on voit bien que ça a pu être aussi un abîme sans fond que la Shoah précisément a incarné. Et de ce fait, ayant bien connu de près cette histoire des juifs en Europe, ils sont bien placés pour dire les rapports entre musulmans et juifs n'ont atteint ni ces sommets absolument extraordinaires qu'on a connus entre les juifs et les non-juifs en Europe, mais n'ont pas connu aussi ce précipice-là. Alors, Léon Ashkenazi insiste là-dessus en disant qu'il y a une proximité théologique entre l'islam et le judaïsme, là où avec le christianisme, il souligne une certaine complexité en disant l'incarnation par Jésus, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça c'est un monothéisme qui n'est pas très cachère, là où avec l'islam, Allah, il n'y a absolument aucun problème. Et concernant les relations entre les civilisations, eh bien voyez qu'à cette époque-là, ils n'ont pas besoin de se référer aux sourates anti-juives du Coran, ils n'ont pas besoin de parler du dhimmi et de dire que c'était terrible, ils comprennent seulement qu'il y a eu, alors pas dans les rapports entre les autorités et les sujets qu'étaient les juifs, mais dans les relations, alors il y a pu y avoir le sentiment d'une certaine supériorité, mais il y a eu aussi des effets de convergence, des effets de bon voisinage, mais ça n'en fait pas pour eux une histoire à l'eau de rose, mais ça n'en fait certainement pas le roman noir que l'on nous dresse aujourd'hui, mais quelque chose qui est dans l'entre-deux et qui reflète, comme vous dites, un constat texte beaucoup plus serein, encore une fois, mis à part le conflit israélo-arabe, sur lequel, là, bien entendu, il voit bien l'affrontement entre les deux. Mais une position, effectivement, qui montre à quel point nos idées tiennent beaucoup, non seulement d'une sorte d'exercice de la raison, indépendant de tout contexte, mais tient compte d'évolutions qui nous incitent parfois à avoir un regard rétrospectif. Alors, plus sévère aujourd'hui, à l'époque, moins sévère. N'oublions pas, en 87, on est 10 ans après l'avenue de Sadat en Israël, le premier traité de paix, on a un peu le sens. Il y a effectivement la révolution iranienne qui a déjà éclaté, mais on ne prend pas encore la mesure de l'événement, et donc du coup, on pose sur l'histoire passée un regard plus serein par rapport au regard qu'on poserait aujourd'hui et qui est plus incisif.
Alors, je voudrais, dans le temps qui nous reste, qui n'est malheureusement pas extensible à l'infini, évoquer trois petits points. Alors, je vous demanderai de faire preuve d'un sens de la synthèse, mais je sais que vous en êtes capable. Et on va revenir sur ce fait que je disais au tout début de l'émission, à savoir votre lecture à la fois loyale, fidèle, empathique et distancée, voire critique. Il y a trois points intéressants que vous notez. Vous trouvez qu'il y a quelque chose comme un optimisme foncier chez ces deux hommes à ce moment-là. J'aimerais que vous reveniez là-dessus. Vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre parfois du manichéisme dans le rapport qu'ils défendent, qu'ils croient devoir être absolument entre Israël et la diaspora. Pour eux, Israël doit être le centre de la vie juive. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucune discussion pour eux là-dessus. Et là, là-dessus, évidemment, vous êtes beaucoup plus réservé. Et puis sur quelque chose peut-être plus délicat, qui serait leur ambiguïté sur le rapport entre, d'un côté, les laïcs et de l'autre côté, les religieux. Alors, je sais que je donne en rafale des sujets de discussion, et je voudrais juste citer cette phrase qui, moi, m'a frappé quand j'ai lu le livre, où à un moment donné, vous dites, ils n'ont pas estimé, c'est sur cette question théologico-politique, donc le rapport du juif et des juifs religieux et des juifs laïcs, ils n'ont pas estimé que ce qui était bon pour la France et la société française, le modèle républicain de la laïcité, aurait pu l'être également pour Israël. C'est une phrase qui m'a en fait stupéfié, moi qui ne suis pas aussi connaisseur que vous de cette pensée, en fait.
Alors, je vais essayer.
Excusez-moi.
Je vais essayer d'être très bref. D'abord, je suis très touché que vous ayez saisi ce qui, voilà, j'ai envie de dire, constitue ma démarche intellectuelle fondamentale et qui consiste à ne pas être dans un rapport pamphlétaire, dans un rapport polémique avec des idées et des personnes qui ne sont pas de votre bord, mais qui, au contraire, consiste à les suivre autant que faire se peut dans leur démarche. Et c'est, vous avez bien cité cette loyauté et cette empathie que j'ai, jusqu'à un moment où je dis, voilà, là, je suis obligé de vous laisser continuer votre chemin, je ne peux plus vous suivre et je désigne en quelque sorte des lignes rouges. Alors, sur la diaspora, par exemple, c'est vrai qu'ils sont encore... Alors, c'est là où le contexte aussi est important. En 1987, on est encore foncièrement dans cette idée que le sionisme, c'est la négation de la diaspora. C'est-à-dire, il n'y a pas de sionisme possible si on ne remet pas en cause, non pas l'existence de la diaspora, mais la légitimité de la diaspora. Et là, moi, je viens modestement, 30 ans après, en disant, attendez, le monde de juifs aujourd'hui se résume à deux blocs, le bloc d'Israël, près de 50%, demain bientôt un juif sur deux, et puis le bloc de la diaspora qui est essentiellement occidental, les États-Unis principalement et l'Europe occidentale, et pour moi, voilà, les deux sont légitimes, et même si j'accueille toujours avec beaucoup de sympathie toute personne qui s'établit en Israël, je ne dénie pas à la diaspora son rôle, sa valeur, son importance. Ça, c'est le premier point. Sur la question des religieux et des laïcs, alors c'est vrai que la société israélienne a beaucoup changé de 87 à 2017. Elle est méconnaissable par rapport à la situation qu'ils ont en face à l'époque. Mais je dirais, je note, précisément parce qu'ils se sont toujours prévalus de la République, du décret Crémieux, de leur enracinement français qui a beaucoup compté. Ils s'expriment en français, ils écrivent en français. Leurs sources sont bien sûr juives, mais elles ne négligent pas non plus le patrimoine français. Et je l'entends bien, je le discerne bien. Mais je dis attention, là voilà, c'est là où je ne peux plus les accompagner. Je dis tiens, c'est quand même assez étonnant de constater que lorsqu'ils se posent la question de la gestion des rapports entre la synagogue et l'État, eh bien là, pour le coup, je ne vois pas que le modèle de la laïcité républicaine dont ils se sont satisfaits, puisque le judaïsme est une religion minoritaire, et donc avec cette neutralité, tout le monde est mis sur le pied d'égalité, eh bien je vois une rupture, c'est-à-dire quand ils arrivent en Israël, bah, ils n'ont pas, je dirais, le courage ou l'audace de dire, bah, écoutez, on est dans l'État d'Israël, l'État doit être neutre envers toutes les religions, et donc il faut insister à un système équivalent. Alors attention, ils sont favorables à l'existence de tous les cultes, et la tolérance est une réelle valeur mise en pratique en Israël, là-dessus il n'y a aucune contestation possible, mais voilà, je souligne à chaque fois ce type de limite.
Au fond, ils ont, vous montrez bien, et on le voit bien dans le texte, ils ont du mal à admettre une identité juive qui ne soit pas religieuse d'une manière ou d'une autre.
Ça fait partie également de ces limites-là que je souligne, c'est-à-dire que pour l'existence d'un juif laïque, là où c'est inconcevable. Et alors ils le disent. Mais laïque d'abord, c'est pas une notion hébraïque, c'est pas une notion juive. Donc tout le monde a quelque chose de la transcendance, a une brisure, comporte en lui un reflet de cette totalité-là. Et donc, du coup, il récuse. Et là aussi, c'est pas l'existence de juifs laïcs, ils savaient bien qu'ils existaient. Mais cette idée que ce judaïsme laïque qui a fait le sionisme et qui a fait l'État d'Israël, ben, il remplit une fonction provisoire, mais il doit céder la place à quelque chose qui permettrait à ce judaïsme religieux de reprendre les choses en main.
On doit se quitter, j'ai juste envie de citer une phrase de Léon Askenazy, parce que il faut, évidemment, la nuance c'est absolument partout dans ce dialogue, et à un moment donné, il renvoie aussi dos à dos les laïcs et les ultra-orthodoxes antisionistes, et il dit que les laïcs, ils ont l'âme malade et l'esprit saint, et les ultra-orthodoxes antisionistes ont l'âme sainte mais l'esprit malade. Voilà. je voulais donner... je suis vraiment heureux que les auditeurs ont pu avoir, évidemment, d'une manière extrêmement brève et tâtonnante, hein, leur donner le sentiment qu'il y avait un livre d'une grande richesse dans lequel ils peuvent se plonger. Je vous remercie vraiment beaucoup, Denis Charbit. Je rappelle le livre s'appelle donc « À l'heure d'Israël », qu'il a été publié chez Albin Michel. Vous l'avez longuement introduit, on en a parlé, vous l'avez annoté. C'était « Mémoire vive », deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoirevive au pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.